La belle Cézonde.
La belle Cézonde.
C'est sur Radio La.
Radio La.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en ce beau matin de la belle saison. Vous êtes à l'écoute de Radiola sur le 106.6 FM à Dieulefit encore pour quelques mois et bien sûr sur l'application Radiola partout ailleurs. Alors vous le savez, la belle saison, on reçoit des invités du pays de Dieulefit-Bordeaux qui font l'actualité culturelle, sociale, l'actualité, le bien vivre ensemble en quelque sorte. Et si je vous dis la Dieulefitoise est une femme moderne. Peut-être penserez-vous dorénavant à Pauline Richon, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Pauline Richon, bonjour.
Bonjour Pauline.
Bienvenue Pauline Richon, tu es guide conférencière Génération 3.0 qui propose que vous soyez juste curieux ou de passage en vacances de faire sentir au plus près les différentes saveurs du pays de Dieulefit-Bordeaux. Je suis ravie de te recevoir pour parler de ta nouvelle activité fraîchement lancée au pays de Dieulefit-Bordeaux, c'est la Dieulefitoise. Ça fait déjà quelques années que tu penses en fait à t'installer en tant que guide conférencière indépendante. L'année dernière, tu avais fait appel à des cobayes pour tester tes balades sensibles du territoire et du terroir. Alors, quels ont été tes premiers retours par rapport aux balades que tu proposes ?
Ouais, je pense que le retour qui vient le plus souvent, c'est le fait que je sois quelqu'un d'ici, en fait, qui parle un peu, pas que de l'histoire d'un point de vue détaché, mais aussi de ma vie personnelle et la vie de ma famille, de mes amis, qu'est-ce qu'ils font. Et aussi que ce soit vraiment ce conseil personnalisé, je recommande vraiment des lieux que je fréquente, et etc.
Alors, toi, tu as fait des études de guide conférencière, mais tu as aussi appris à déguster et à parler du vin. Quel a été ton parcours ?
Eh ben, mon parcours, il est assez récent. Déjà, je suis jeune, donc je ne bois pas du vin depuis si longtemps que ça. Donc, j'ai un assez jeune palais. Mais j'ai eu la chance d'avoir des financements pour être formée à l'Université du vin à Suze-Larousse. Donc ça, c'était l'année dernière. Et donc, j'ai entamé le module 1 du certificat de dégustateur professionnel en vin, qui était vraiment génial, qui m'a donné un envers du décor et qui m'a aussi, moi en tant qu'accompagnatrice à la dégustation, m'a fait me rendre compte à travers les sens, on pouvait se découvrir soi-même en plus de découvrir un produit. Donc c'est vraiment ça qui m'a marqué et que j'ai envie de transmettre aujourd'hui.
Et donc ce parcours à Suze-Larousse et cette formation de guide conférencière que tu as fait où ?
La formation de guide conférencière, je l'ai fait pas très loin d'ici, parce que c'était en Ardèche, au Pradel, donc c'est à Mirabel, entre Montélimar et Aubenas. Et c'était un an de formation, c'était une licence professionnelle, après j'avais déjà une licence. Et c'était donc une année autour de l'histoire de l'art, mais aussi de techniques de médiation, d'intervention dans les écoles, de tout public, de tout sujet, donc c'est assez large quoi. J'avais des collègues qui étaient si bien du paléontologique que d'autres des châteaux d'une telle période précise, donc c'était assez large et très intéressant.
C'était une évidence depuis le début pour toi de revenir dans ce pays dans lequel tu as grandi. Alors t'as pas été très 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 loin, hein, t'as pas quitté tout à fait la région, mais ce pays des cigales, de la lavande, mais aussi, on en parlera tout à l'heure, du rugby, c'était une évidence de revenir pour faire aimer ce pays aux autres depuis tout début de tes études ?
Oui, je dirais même que récemment, j'ai recroisé mes profs du lycée avec qui je suis toujours en contact et qu'en seconde, on avait fait une sortie au Musée Lumière à Lyon, il me semble, et que j'avais demandé à la guide, à 15-16 ans, j'avais demandé à la guide quelle étude il fallait faire pour devenir guide. Et après, c'est vrai qu'en terminale, j'y pensais toujours. Je m'étais dit peut-être faire guide de moyenne montagne, ou je ne savais pas trop. Puis je me suis vite rendu compte qu'il fallait un sacré niveau de marche, que je n'avais pas forcément, même si je randonne moi-même de temps en temps. Mais oui, c'est quelque chose de... En fait, c'est raconter les histoires. On en parlera peut-être avec le film aussi, mais c'est raconter des histoires que j'aime et transmettre une émotion à quelqu'un ou à un groupe de personnes qui est là pour ça, en fait, pour vivre des émotions.
Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu comment se passent les balades que tu proposes ?
Eh bien oui, déjà c'est des visites donc privées, donc c'est entre on va dire 4 et 12 personnes, donc d'une même famille ou d'un même groupe qui se connaît déjà, qui du coup, il y a évidemment une visite comme on me l'a appris un peu... guide conférencière, donc historique, histoire de l'art, on analyse les bâtiments, on s'arrête sur plein d'éléments du terroir d'ici, de l'histoire d'ici. Et il y a aussi un volet important que je voulais mettre en place, c'est accompagner les gens chez les artistes et les artisans, parce que c'est vrai que pas dans toutes les visites guidées, on rentre vraiment chez des personnes qui travaillent ou qui font de l'art, de l'artisanat. Donc il y a ce volet-là qui était important pour moi. Et également le volet dégustation, donc on termine toujours par une dégustation. C'est pour ça que les visites, elles se font soit en fin de matinée, soit en fin d'après-midi, pour que ces dégustations dînatoires, les gens n'ont pas besoin d'aller au restaurant après. On goûte les vins, les bières, les olives et huiles d'olive. Hier, je suis allée en chercher en plus à Nyons. Je sélectionne mes produits pépites à moi, les picodons, tout ça, et d'amener à faire découvrir le territoire par les sens, pour moi, c'était quelque chose d'important.
À quel moment tu as senti ça, ce rapport au sens, toi, en grandissant ici? Je ne sais pas, je pense, effectivement, on va entendre dans un instant la vidéo que tu proposes, notamment sur Insta et tout ça. Ce truc, ce rapport à la lavande, je dis ça parce qu'en ce moment, c'est ça, c'est l'odeur de la lavande quand on passe à côté. Est-ce que ce sont tes études qui t'ont amené à avoir ce regard-là ici, sur ici, ou comment?
Ah, mais c'est une bonne question.
Est-ce que tu as changé de point de vue, justement, après tes études? Est-ce que tu as porté un regard différent?
Ça, c'est sûr, parce qu'avant ma licence guide conférencière que j'ai fait en Ardèche, j'ai quand même fait 3 ans de licence géographie et aménagement à Grenoble. Et en fait, c'est des études où on change beaucoup notre regard sur le territoire, on se rend compte que rien n'est laissé au hasard, que ce soit en termes de politique territoriale, en termes d'évolution, de l'architecture, de plein de choses comme ça. Et en fait, c'est vrai que ça m'a heurté parce qu'en fait, comme on habite ici, on ne se rend pas compte des fois. On ne porte pas le même regard que quelqu'un qui arrive, qui est nouveau. Et quand je suis partie, quand même plusieurs années, même si je revenais régulièrement les étés, les vacances, etc. Mais ça m'a quand même frappée de me dire, mais j'avais jamais remarqué cette façade qui est si particulière. Enfin, c'est quelque chose sur lequel on ne s'attarde pas parce qu'on y vit, on y passe.
Quand on y vit, on voit moins.
Voilà.
Et cette demoiselle Pauline Richon a l'incroyable qualité de pouvoir se lever et de partir comme ça, se filmer. Donc effectivement, ta vie devient notre histoire, et notamment sur Insta. Et je vous propose d'écouter la vidéo qui a été postée il y a quelques jours sur le compte de la Dulfitoise.
Le Pot de Laval, c'est un des villages qui est classé parmi les plus beaux villages de France. Aujourd'hui, on se retrouve chez moi, en Drôme Provençal, et je vous emmène visiter le Pot de Laval. Et ce matin-là, je me suis levée tôt, il faisait vraiment trop beau et je voulais aller me balader dans les lavandes. Donc j'ai pris mon petit appareil photo et mes claquettes et je me suis baladée, ça sentait trop bon. Je vous conseille vraiment de venir rapidement parce que c'est bientôt la fin de la saison. Le Pot de Laval, c'est un village qui est hyper fleuri, c'est trop magnifique en vrai. C'est plein de vieilles pierres, d'art, d'ateliers, d'artistes et d'artisans. Là, j'ai même croisé une dame et son chien qui venaient faire des dessins à l'ombre. Et puis, on allait faire un tour sur la terrasse du café du Centre d'art contemporain. C'est super beau. On en a profité pour visiter un peu l'expo. Puis, on est allé tout en haut du village voir le château et la chapelle à ciel ouvert. Le toit de la chapelle s'est effondré au début du siècle dernier et la commune a décidé de ne pas reconstruire. Et je trouve que ça donne un charme fou. Et c'est déjà la fin de la balade. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Pauline, j'ai créé la Dulfitoise qui propose des excursions gourmandes dans le pays de Dulfi, en Drôme Provençal.
Et voilà, Pauline, la Dulfitoise, patrimoine, passion et émotion. Est-ce que c'est vraiment comme ça, Pauline? Tu te lèves le matin, hop, tu prends ton smartphone et tu pars dans le champ de lavande à côté, ou c'est un tout petit peu plus produit que ça?
Disons que je me lève quand même avec l'idée de me dire « Ah, j'ai bien envie de faire une vidéo qui présente le Bois de Laval », donc c'est peut-être un peu prévu la veille, mais ça m'arrive quand même de descendre comme ça le matin. Là, ce matin, j'ouvre ma fenêtre, ça sentait la lavande quoi, de tout là-haut, c'était génial.
Et dans ta formation de guide conférencière, est-ce qu'on apprend aussi à faire tout cet univers de communication? Tu viens aussi de mettre en ligne ton site internet, ladulfitoise.com, donc sur lequel il y a un blog, donc ça signifie aussi faire des articles. Les blogueurs, c'est vraiment important dans le milieu du tourisme. Est-ce que tu as appris ça, ou comment tu te l'es approprié?
En fait, la Diolfitoise, c'est quand même né il y a 4 ans. C'était pas sous ce nom-là, mais j'avais un blog qui s'appelait Géolophy. Je sortais de mes études de géographie et je voulais parler aussi de Diolfi. Donc c'était un espèce de bric-à-brac où il y avait un peu toutes mes expériences, mes critiques. J'avais fait des critiques de théâtre, d'albums d'artistes ou des choses comme ça. Et aussi des conseils sur la Drôme et Diolfi, etc. Et donc, oui, c'est quelque chose qu'en fait j'ai fait en pratiquant. J'ai pas eu spécialement de formation sur ça. Pareil pour la vidéo, j'ai appris seule aussi. Et moi, c'est quelque chose qui me passionne en fait, la création de contenu. Pour moi, je pense pareil quand je crée une vidéo ou un article que quand je crée une visite guidée. C'est par quoi on commence, comment on accroche son auditoire, où est-ce qu'on veut l'emmener en fait. Dès le début, on le sait.
Il y a quelque chose de très médiatique là-dedans, ça me fait penser à la radio d'ailleurs. Pour revenir sur la typologie, ce que tu proposes dans tes balades, c'est ce lien et ton envie de faire un lien entre les touristes et les artisans, enfin les touristes, les gens de passage, et les artisans locaux ou des agriculteurs. On a vu que tu proposais dégustation, notamment au musée de Poët-Laval. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques que tu vas aborder petit à petit et proposer pour les gens qui voudraient découvrir sous un angle particulier le pays de Diolfi-Bourdeaux?
C'est pas prévu pour cette année. Pour l'instant, je m'étais dit que les visites Diolfi et Poët-Laval et aussi juste le volet dégustation une fois par semaine au Poët-Laval. Mais oui, c'est quelque chose que j'aimerais, par exemple, aller faire des médiations comme ça directement dans un domaine viticole, par exemple, ou chez un ferronnier, ou des choses comme ça. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Je pense que ça peut se faire avec le temps, les opportunités, les rencontres. Je connais pas encore tout le monde au pays de Diolfi, c'est ça qui est étonnant, malgré que ce soit petit. Mais oui, c'est quelque chose que j'envisage.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement des gens que tu as déjà rencontrés et que tu souhaites faire rencontrer à ceux qui viennent de l'extérieur?
Oui, moi, il y a Daniel Joux, dans la rue du Bourg, qui est un artiste que j'apprécie beaucoup. Parce que ça doit faire 2 ou 3 ans que je commençais déjà à parler de ce projet-là. Il m'a tout de suite soutenue. Et en plus, moi, je trouve qu'il a une vision artistique assez singulière, surtout par chez nous. Enfin, voilà, c'est pas des champs de lavande, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir artistiquement ici.
Une peinture assez surréaliste.
Oui, exactement. Et en fait, j'adore, parce que chaque fois que j'y vais, souvent, c'est au début d'une nouvelle toile et je reviens quelques mois plus tard et j'ai la fin, j'ai toutes ces explications avant de comment il est parti, etc. C'est un homme très accueillant et je sais que c'est un personnage qu'il faut rencontrer.
Quels autres agriculteurs, paysans, tu parlais un peu des personnes qui produisent aussi ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on déguste. Quels sont les autres que tu peux nous... Enfin, chez qui tu pourrais nous emmener éventuellement?
Oui, peut-être pas chez qui on mange et on boit, mais dans l'agriculture de la lavande, en fait c'est vrai que nous aussi on est entourés constamment, mais moi j'avais aussi besoin de voir un peu l'envers du décor, et j'ai un ami qui s'appelle Bernard Gros qui est sur Tessières, qui est agriculteur d'herbes médicinales et aromatiques, et en fait un jour je lui ai demandé, emmène-moi à la distillerie, montre-moi comment ça se passe, et donc c'était génial, parce que c'est tout un envers du décor que j'avais pas, même si je savais plus ou moins évidemment comment ça se passait. Mais là, c'était vraiment la réalité et comprendre pourquoi cette espèce et pas une autre, pourquoi cette distillerie, pourquoi une autre, enfin, comment ça marche.
Qu'est-ce que tu as appris par exemple?
J'ai appris différentes méthodes de distillation. Par exemple, à Tessières, ils font encore chauffer en fait, la distillerie à base de paille de lavande. Et d'autres distilleries le font avec une chaudière à gaz.
Ah oui.
C'était intéressant d'avoir ces deux versions. Pourquoi les avantages, pourquoi les inconvénients, enfin comment ça marche, etc. Donc c'est la distillerie Blanc à Tessières où je suis allée et j'ai vu le labeur que c'est.
C'est un énorme travail.
Ouais. Puis il fait très chaud. Enfin c'est du feu pour procéder au processus de distillation. Et en plein été, il fait déjà chaud.
Un moment, bien chaud dans l'année.
Moi-même qui étais là pour prendre des photos, des vidéos et qui ne travaillais pas, j'avais pas la fourche à la main, même moi, c'était fatigant.
Et tu vas emmener des personnes là-bas, c'est prévu?
Non, c'est pas prévu parce que ça demande une autre logistique de prévoir un temps transport. Par exemple, si je veux faire des étapes entre plusieurs lieux qui sont un peu éloignés, c'est une autre logistique, mais ça pourrait arriver par la suite. En tout cas, là-bas, à cette distillerie, je sais qu'ils accueillent du public et qu'ils expliquent 2-3 choses, même s'ils travaillent souvent beaucoup.
Comment on construit une visite guidée ?
Déjà, je pense que c'est avec... on a un support. Donc on part pas de rien, on part d'un village, d'un lieu. L'année dernière j'étais guide au centre d'art Yvon Morin, qui est devenu le centre d'art contemporain Roche-Colombe aujourd'hui. Et j'étais guide et j'ai créé une visite guidée à partir d'une exposition déjà en place. Donc on part de quelque chose et aussi on part de soi-même, de quoi j'ai envie de parler. Parce que je pense qu'on peut pas intéresser son auditoire si on n'est pas soi-même intéressé par le sujet, si on n'a pas soi-même envie d'approfondir et de se dire... quelle émotion on a envie de faire passer. Moi, je sais qu'il y a des moments où c'est plus émotif, des moments où on rit allègrement. Enfin, il y a de tout dans ces
visites. Et pourtant, c'est quand même une partition qui est écrite, je ne sais pas, j'imagine.
C'est une partition qui est un peu écrite, oui, même si, en fait, c'est qu'avec l'expérience. C'est comme les stand-uppers. Moi, je compare souvent mon métier au stand-up parce que, des fois, il y a un peu cet instinct de survie où si on se rend compte que son auditoire nous lâche, comment on va le rattraper, comment on va trouver quelque chose qui va l'intéresser, comment on interagit avec lui. C'est vraiment cette comparaison que je fais souvent, oui.
Alors, l'adulte fitoise, c'est Pauline Richon. Et Pauline Richon, c'est plein de passions différentes, dont le rugby, mais aussi le hip-hop. Je propose, Pauline, qu'on fasse une petite pause musicale avec un morceau qui vient d'Espagne.
Oui.
C'est quoi? Tu peux nous dire?
C'est un morceau qui est sorti, je pense, il y a un mois. C'est Bébé Trix qui fait ça. C'est une fille qui est sortie de nulle part. Bon, peut-être qu'elle travaille depuis des années, mais en tout cas, elle a popé comme ça dans mes fils d'actualité sur les réseaux sociaux. Et je suis tombée amoureuse de ce morceau-là.
Allez, c'est parti.
Pibes en el tiempo en pila, ponte la fila, ponte las pilas. Pregunta a mi ex que se suicida. Con mi cara de una, claro que soy mala. No te hago caso, no me da la gana. Si es una presa, le paso a mi hermana. Te fuiste con ella porque es más barata. Tiene la Air Force super guarra. No sé por qué coño te las compras blancas. Si fuese puta sería cara. Sería la pimp de toda la manzana. Fucking Ditex, no llevo Zara. Antes me voy a lo humano. En el cole mi madre no hacía el bocata. Era espabila o chancla. Me iba al parque a robar. Suerte que tengo cara de santa. Qué pena que solo estabas buena en la escuela. Vendé a hacer cheating en la escuela. Ew, eres hortera. Eres hortera. Eres más fea que la parte de atrás de una nevera. Ew, vaya tela. Aprende a hacer cheating en la escuela. La más mala de España soy yo. Llego a la disco, me salto a la fila. Meterse conmigo es misión suicida. Tengo pibes en el día en por pila. Ponte la fila, ponte las pilas. Pregunta a mi ex que se hace suicida.
Vous êtes bien sur Radio La, c'était Bébé Trix avec Mission Suicide, un morceau aimé et choisi par Pauline Richon, la dieule fitoise. Vous êtes à l'écoute de Radio La sur le 106.6 FM, Adieu le fille, et sur l'appli et le site web partout ailleurs. On parle de la dieule fitoise, donc disons une entreprise micro-personnelle, donc je ne sais plus comment ça s'appelle.
Une micro-entreprise.
Qui va vous permettre, grâce à une guide conférencière zélée et amoureuse de son pays, de découvrir le pays de Diolfi Bourdeau. On revient encore quelques instants, si tu veux bien, Pauline, sur les richesses de ce pays Diolfi Bourdeau, avant de parler rugby et stade. On a vu se promener avec toi sur les réseaux sociaux. Tu travailles toi-même dans la communication, tu continues à travailler pour plusieurs adresses locales, tu travaillais pour les hospitaliers par exemple.
Oui, c'est toujours le cas, je travaille toujours pour eux, donc je suis photographe, vidéaste et community manager, on appelle ça, c'est un gros nom pour les gens qui ne sont pas trop habitués au numérique, mais c'est des métiers émergents parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible d'aller capter une audience, capter des clients, des potentiels clients sur les réseaux sociaux, que des pages de pub sur des journaux où c'est quelque chose qui se fait de plus
ça
en plus.
Ça fonctionne plus comme ça.
Je pense que pour certains, ça fonctionne encore comme ça, mais pour d'autres, il y a ce volet-là qui s'est rajouté et c'est fou comme avec... Bon, moi, je suis payée pour faire ces prestations pour les entreprises, évidemment, mais moi, par exemple, je développe une audience sur mes réseaux qui à partir de rien, c'est-à-dire que je ne dépense pas d'argent, juste je crée du contenu qui intéresse et ça me permet d'avoir des gens qui...
Ça crée de l'accroche.
Exactement.
En fait. Et on a envie de suivre aussi un fil, c'est ce qu'on appelle un peu le storytelling. Je ne sais pas si du coup tu as aussi appris ça. Comment vient s'insérer ? Est-ce que tu peux nous parler de ton site web que tu viens de finir et dont tu es bien fière et tu as raison, qui permet aussi de fidéliser un peu les gens en un endroit ? Ce n'est pas tout à fait la même façon de fonctionner ?
Le site internet, c'est un peu parce que je me suis retrouvée un peu plantée par mon webmaster au dernier moment, donc j'ai dû m'y mettre. Après, heureusement, j'ai quelques facilités à m'en sortir et bon, ça a été quand même un peu difficile, hein, je vais pas le cacher, tout un système de réservation, etc.
Il y a un système de réservation sur le site,
ouais,
donc vous pouvez directement réserver si vous avez des amis qui viennent vous visiter.
Exactement, avec les créneaux disponibles, etc. Comme ça, c'est plus simple pour tout le monde, même si on peut aussi m'appeler directement. J'ai oublié ta question.
Ma question, c'est donc tu es très fière de ce site internet. Comment se situe le site internet par rapport à tous les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est une plateforme sur laquelle on atterrit directement ? Comment tu l'as pensé en fait dans l'écosystème un peu des réseaux ?
En fait, je l'ai pensé un peu dans le prolongement de mon blog de ce qu'il était il y a 4 ans. C'est de continuer d'avoir ce flux d'articles un peu régulier. Qui donne des conseils, qui met en valeur le territoire, qui met en valeur des choses et des gens que j'apprécie et que je pense que les gens peuvent apprécier. Donc je l'ai construit comme ça. Après, évidemment, qui s'adresse aussi aux gens de passage qui ne connaissent pas du tout le territoire. Donc c'est pour ça que...
Il faut qu'ils soient référencés en plusieurs endroits.
Ouais, ça c'est un travail de long terme aussi. Moi, je suis très bien entourée à ce niveau-là. J'ai pas mal d'entrepreneurs du web dans mon entourage, donc c'est pas mal. Mais c'est sûr que ça prend plus qu'un mois. Site est sorti le 1er juillet, je ne pense pas qu'il soit référencé... directement.
On le mettra sur la page de l'interview, à minima.
J'ai beaucoup de chance.
Oui, énormément de chance. Ce site qui est donc très beau, et vous pouvez vous inscrire au blog, vous pouvez le suivre.
Oui, il y a aussi une newsletter, je l'ai envoyée hier, la première. Une newsletter par semaine avec des exclus dessus, pas trop de pubs, promis.
Donc inscrivez-vous à cette newsletter hebdomadaire. Alors, Pauline, quelles sont selon toi les 3 plus grandes richesses à ne surtout pas manquer quand on passe par notre pays, celui bien sûr de Diolfi et Bourdeaux ?
Moi je pense que c'est le marché de Diolfi du vendredi matin.
Ah oui ?
Ouais. Parce que c'est j'ai l'impression que le temps s'arrête ici, c'est le jour du marché, c'est le jour du marché, un peu pour tout le monde quoi. C'est « Ah demain c'est marché, on se voit au marché » ou « enfin, y a... Ah je peux pas, il y a marché », c'est vraiment ça... Enfin, je le ressens comme ça. Et puis, enfin, c'est génial. Moi, j'adore. C'est vrai que des fois, quand on est un peu pressé, on évite les horaires d'affluence touristique. Mais on aime aussi y flâner quand on a un peu de temps. Sinon, en termes de produits, moi, il y a la brasserie de la Vieille Mule que j'adore. Parce que je les trouve inventifs, adorables déjà. Et puis, le lieu est magnifique là-bas. Et en plus, il y a un marché tous les mercredis.
Mercredi soir, oui.
En été. Ouais, en été. C'est vraiment un lieu génial. Et puis chaque produit, ils ont un grand catalogue. Et donc, c'est sûr que vous trouvez votre bonheur, même si vous n'êtes pas très fan de bière.
Et il y a là-bas aussi, c'est un lieu patrimonial, puisque c'est une ancienne fabrique de céramique.
Ouais.
Alors, une troisième chose à visiter absolument, une richesse du pays de Diolfi-Bourdeaux que tu mettrais en avant à tout prix.
À tout prix.
Sur une île déserte, que tu emporterais sur une île déserte.
Je pense que c'est les couchers de soleil aux plaines. Au-dessus de Pointe-Laval, il y a une petite randonnée qui est assez accessible. En une heure et quart, on y est. Et bon, il faut prendre la frontale parce que le retour est un peu sombre si on y va pour le coucher de soleil. Mais c'est sûr que là-bas, à Diolfi, on est dans un petit berceau un peu entouré de montagnes, on est bercé, on est dorloté, mais quand on arrive là-haut, on se rend compte de l'immensité, entre guillemets, de la vallée du Rhône, du plat que c'est aussi, parce que nous, on est entouré de montagnes, mais juste derrière, c'est plat complètement. Donc, et puis le coucher de soleil sur les moires des Choix au fond, là-bas, c'est quelque chose qui est quand même à voir.
Comment tu penses faire pour trouver ton public et pour le renouveler ? Quels sont les chemins, alors hors le numérique, les réseaux sociaux et tout ça, auxquels tu as pensé ? Et comment on fait, en fait, tout simplement ?
C'est une vaste question à laquelle je me pose aujourd'hui encore. Mais je pense que les hébergeurs ont un rôle à jouer aujourd'hui dans... En fait, les gens cherchent le conseil personnalisé. d'humain à humain, je pense. Et donc je pense que les hébergeurs sont maintenant devenus aussi des mini-offices de tourisme, où ils conseillent directement des lieux que eux aiment, que eux fréquentent. Je pense que ça se passe aussi comme ça aujourd'hui. Il y a un autre canal d'acquisition, on parle comme ça en entrepreneuriat, parce que j'ai aussi fait des études en entrepreneuriat, que mes amis se moquent souvent parce que je fais beaucoup d'autostop. Donc je me fais ramasser par un peu qui veut bien me prendre dans sa voiture pour faire un bout de trajet avec moi. Et en fait, j'ai rencontré plein de gens qui étaient super intéressés par mes services et qui prennent toujours une carte de visite ou un flyer.
Donc du lien direct, l'expérience.
Et c'est aussi avec l'autostop qu'est né que s'est développé le projet dans ma tête, parce que une fois je me faisais prendre en stop par des gens qui avaient loué une maison vers Crupy, et c'était des Parisiens en vacances entre amis, une petite dizaine, et qui me disaient là on va à Super U pour acheter du vin pour la semaine. Je me disais, oh grand malheur, non jamais. Je les ai emmenés à la cave le vin poète Marc Lalanne que je connais bien. Et ils sont repartis chacun avec deux cubes dans les mains. Et ça, c'est aussi une raison d'être de la Dulfitoise, c'est que les richesses qui peuvent être créées ici ne partent pas à des multinationales, enfin, en tout cas des grandes entreprises
Reste
nationales.
Sur le territoire.
Exactement. Pour moi, c'est important.
Une idée de consommer local.
Ouais, exactement. Parce qu'en fait, il y a déjà tout. Il y a tout dans la rue du Bourg, dans les boutiques, tout ça. Il y a pas besoin, je pense.
D'aller chercher plus loin ou de perdre nos affaires un petit peu plus loin.
Ouais.
Est-ce qu'il y a encore des partenariats qui restent à nouer ? La Dulfitoise, c'est le début. Est-ce que tu es en recherche de partenariats d'un certain type ?
Ouais, bien sûr. Mais moi, je pense que je fais ce métier-là aussi parce que je suis quelqu'un de très extraverti et que j'aime la rencontre, j'aime l'humain profondément. Et donc, je suis toujours heureuse de rencontrer de nouvelles personnes qui me parlent de leur travail et de pourquoi pas faire quelque chose ensemble, oui.
Bientôt une chronique sur Radiola, alors.
Oui.
comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a d'autres guides indépendants sur le territoire ? Je me posais la question, parce qu'on est partenaire avec l'Office du tourisme. On fait justement un agenda chaque semaine des sorties avec Aline de l'Office du tourisme de Dulfi Bourdeau. Est-ce qu'il y a d'autres guides ? Est-ce que vous vous fédérez ? Est-ce que vous travaillez quand même avec l'Office du tourisme ? Parce qu'à certains endroits, ça doit se chevaucher.
Oui, moi je m'entends très bien avec les personnes de l'Office du tourisme, je connais Aline aussi. Je pense que justement j'ai construit une offre complémentaire à l'offre qui existe déjà. C'était fait pour ça, d'ajouter ce volet dégustation, d'ajouter autre chose que je pense eux c'est peut-être plus difficile pour eux de mettre en place parce que c'est une structure qui dépend du public, etc. Donc il y a plus de limites. Mais oui, dernièrement j'ai rencontré une guide conférencière qui travaille dans un camping et qui veut faire des visites aussi, elle, pour les clients du camping, du coup. Je pense que moi, tout le monde peut cohabiter. Je vois pas de concurrence spéciale, parce que je pense que mes visites sont d'un certain budget, donc je pourrais toujours rediriger les gens qui n'ont pas ce budget-là, et que je comprends totalement. Donc je pense qu'il n'y a pas, de mauvaise concurrence pour moi. Tout le monde peut cohabiter. Et justement, c'est faire rayonner le territoire encore plus pour moi.
Alors, autre particularité, Pauline, je l'évoquais tout à l'heure, j'espère qu'on peut en parler ici, parce que c'est une belle particularité. Tu es une grande fan des stades de rugby et tu as aussi une actualité avec ça. Tes préférés étant le stade des Alpes à Grenoble et le stade Michel Richon de Dieu le Fils, ça tombe bien. Est-ce que tu peux nous dire d'où est venu cet amour pour le stade, même si moi j'ai une petite idée, mais que tout le monde soit au même niveau de connaissance?
Mon père, j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble qu'il a... Parce qu'avant, il y avait l'Union sportive Dulfi et l'Union sportive Bourdeaux. Je crois qu'il a fondé l'Union sportive Dulfi ou qu'il a rassemblé les deux avec
donc
un autre collègue.
Il a fait la fusion des deux,
exactement.
C'est fort probable.
Et donc moi, je suis née littéralement sur un stade, presque, je peux dire. Enfin, ma pauvre mère a couché en plein stade. Non, pas du tout. Mais j'ai grandi dans cet univers. C'est un peu paradoxal parce que je suis une femme, donc j'ai dû faire ma place aussi quand j'étais petite, même si mon père au début... Si j'avais été un garçon, je n'aurais pas eu le choix que de faire du rugby. Mais vu que j'étais une fille, il m'a laissé un peu tranquille.
Mais tu en as fait.
Et j'en ai fait. Et c'est lui qui m'a entraînée avec mes copines. À l'époque, on avait fait toute une équipe de rugby, on avait 10 ans. Et c'est mon père qui nous entraînait, donc c'est des souvenirs géniaux.
Et les stades, tu les aimes donc au point de leur avoir dédié un film qu'on peut voir sur YouTube. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ?
Oui, en fait, je me suis rendu compte avec le temps que oui, j'aime le sport, j'aime le spectacle sportif aussi, parce que c'est pas pareil que de pratiquer, que de regarder. J'aime comprendre les techniques, les tactiques, comment on va à l'essai, enfin, même sur d'autres sports, hein, je suis très fan de sport en général. Sauf que ces dernières années, je me suis rendu compte que j'ai un peu développé une addiction à vivre le stade, à être dans un stade. Donc j'ai fait mes études à Grenoble et là-bas, il y a l'équipe du FCG, rugby. Et dans ce merveilleux stade des Alpes qui est incroyable, d'architecture, qui est magnifique, avec les montagnes, coucher du soleil, enfin, c'est quelque chose, les montagnes enneigées, c'est magnifique. Et ce côté arène me saisissait à chaque fois. Cette énergie, ces chants des tribunes, etc., ça me saisissait vraiment au point de me rendre émotionnelle. Et j'ai plusieurs fois pleuré dans des stades. Et en fait, cette vidéo, j'y pense depuis longtemps. C'est un sorte de documentaire avec plein d'éléments, comme j'aime, très dynamique. Mais il tente de répondre à la question de pourquoi les stades me font pleurer. Et donc, pour répondre à cette question, je nous ai emmenés avec ma petite caméra à l'assaut de grands stades, de tribunes assez connues, de stades moins connus, de hockey, de foot, de rugby, de plein d'éléments comme ça. Et aussi une interview d'un chercheur, Jean-Michel Roux, que je salue, qui était mon ancien enseignant à l'université et qui m'a énormément appris. Parce que lui, les stades, c'est personnellement un sujet qu'il adore. Et en plus, il en a fait un sujet d'étude avec... Enfin, de la recherche sur pourquoi, comment sont construits les stades.
Qu'est-ce qu'on apprend avec lui ? Est-ce que les stades sont construits spécifiquement pour nous mettre cette chair de poule un peu, cette émotion, comme tu le dis ?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a un aspect que j'aborde dans la vidéo qui est le marketing émotionnel. C'est qu'aujourd'hui, pour vendre un produit ou un service, il faut créer l'émotion pour déclencher l'acte d'achat. C'est comme ça qu'on l'apprend. Le marketing, c'est très décrié et on le comprend parce que ça pousse à l'achat de biens et de services pas forcément utiles. Mais là où tout est fait, par exemple, dans un stade, c'est on est pris par l'émotion, que ce soit positif ou négatif, on est pris par l'émotion et donc on va dépenser plus facilement notre argent pour acheter des bières, pour acheter de la nourriture, pour acheter le maillot de notre équipe favorite, pour acheter déjà la place de billet parce qu'en fait, le stade donne accès. On achète directement un moment d'émotion. C'est ça qui est assez fou.
Mais ça veut dire que les émotions, c'est toujours construit par la société. Enfin, il y a un petit côté triste, non ?
Il y a un côté triste, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'arrive pas à voir le triste dans le fait que plein de gens soient ensemble, unis vers la même chose. De soutenir une équipe, même si on se dit que c'est très futile et c'est ce qui peut être vrai. Mais en fait, moi, je trouve ça magnifique. Je pense qu'il faut le vivre.
Et alors, ce film, il a aussi été pensé en hommage un peu à ton papa, peut-être, dont le stade de Dieulfi porte le nom.
Étrangement, pas vraiment, parce qu'avec mon père, on n'était pas trop... Si c'est vrai qu'on allait en vacances en Savoie, on s'arrêtait toujours au stade Lady Guerre à Grenoble, regarder des matchs. Mais c'est vrai que je pense que c'est étonnamment quelque chose que j'ai construit moi aussi de mon côté. Même si, bon, j'avais un terrain assez travaillé pour aimer le spectacle sportif, etc. Mais évidemment, mon père, la Dieulfitoise est aussi un peu aussi pensée pour mon père, parce que c'était un boulanger à Dieulfi pendant des années, personnalité très aimée et très connue. Et aujourd'hui, il est avec moi dans un peu tout ce que je fais, même si il n'y a pas de pression. Je ne fais pas les choses pour lui, je fais les choses que j'aime. Et je pense que les valeurs coulent dans mon sang, les valeurs qu'il avait.
En tout cas, ça s'entend et moi, ça me fait des glu-glu-glu sur les bras. Est-ce qu'on peut donner le titre de ce film ? On le partagera aussi sur la page de l'interview, mais je ne me souviens plus exactement du titre.
Le film s'appelle « Au stade des émotions ». Bah, c'est un jeu de mots.
Très beau titre.
Et entre parenthèses, il est écrit « Je chiale sa mère » parce que oui, dans la vidéo, je pleure énormément et même pendant tout le montage qui a pris beaucoup de temps, j'ai beaucoup pleuré. Parce que revoir à quel point l'émotion me saisit, c'était à chaque fois, ça m'en faisait pleurer.
Et il a été posté il y a moins d'un mois.
Oui, début juin, il a été posté.
Début juin, et beaucoup de retours positifs sur la toile.
Oui, ça m'a étonnée, parce que évidemment mon entourage était au courant que je travaillais sur cette vidéo. Évidemment, j'ai fait un peu de communication dessus sur mes réseaux à moi. Mais j'ai eu YouTube qui a référencé naturellement en fait, cette vidéo, et j'ai eu des retours de parfaits inconnus qui m'ont dit « Ah ben, ta vidéo m'a été recommandée, j'ai adoré ». Ou même, ce qui m'a plus touchée, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec les stades. Pour qui c'est des grands garçons qui courent derrière une balle, ça n'a aucun intérêt, et qui m'ont dit, mais voilà, j'ai été émue. J'ai été émue, et ça, c'est quand même une petite fierté, quoi.
Quels sont les grands rendez-vous de l'été pour la Diolfitoise ?
Eh ben, tous les mardis, on se retrouve au Centre d'art contemporain Roche-Colombe au Poët-Laval pour le volet dégustation, en fait. Vu que je fais des visites dégustation et qu'il y a des gens qui, peut-être, s'en fichent de la visite ou en tout cas n'ont pas ce temps ou ne sont pas un groupe assez suffisant pour venir faire ces visites-là, je voulais proposer le volet dégustation et permettre aussi de découvrir le Centre d'art, qui est un lieu magnifique au Poët-Laval, et découvrir l'exposition en cours et le conservateur.
Et découvrir une personnalité marquante et importante du pays Diolfi-Bourdeaux, Pauline Richon, alias la Diolfitoise. Merci beaucoup, Pauline, d'être venue ce matin dans la belle saison. On va redonner, évidemment, le site web, mais vous retrouverez tout ça sur le site radiola.media, mais c'est ladiolfitoise.com, très simple.
Très simple.
Facile d'accès. Sur les réseaux, on te trouve facilement parce que tu es bien présente. Eh bien, on te souhaite... Tout de bon ?
Oui, je souhaite pareil à Radiola parce que c'est un endroit où j'aime beaucoup venir, alors je te remercie.
Eh ben, il faudra revenir et nous, on ira suivre la visite de dégustation parce qu'on aime bien le vin aussi ici. Merci beaucoup et puis bel été à toi et à très bientôt. On va se quitter avec un deuxième morceau que tu as partagé sur les réseaux en mode perso cette fois. Ça s'appelle Low Key Straight Drop et c'est à nouveau du hip-hop un peu rush. Ciao !
Ciao !
What it is, what it do, what's the word, bitch? What it is? It's Stephen Curry in the booth, I brought my 30. Now I ain't rapping about no murders, I ain't heard shit. But we been letting them steaks go, so we ain't nervy. They got my nigga locked down, he on some purr shit. Pull up on the nigga, walk down, straight out the curb shit. Hanging out the window, gun sound, I make him swerve shit. Scale backpack, some lead on, I'm on my nerve shit. She gon' eat this foot long, she gon' eat the coney. These niggas sneaking when it beef, that's why I keep it on me. Hey, we the squad that never trust, we know these niggas phoning. I'm smoking blunts with my thug, and he fresh out for homie. Hey, get the clapping at me, nigga, I bet I clap back. Rhyme for my nigga, I put them bullets where he nap at. He rolling off them jigs, I'm off them Xan, now we can't snap back. Boy, he the clan, he known to push a nigga cow back. I ain't friendly, I ain't laughing, boy, ain't shit funny. I was just broken on my ass, but now I'm counting honey. Now this ain't no diss, so all you bitches, y'all can keep it coming. I been on my shit, you nigga pit, that's why I keep on stunting. Just cause a nigga tough in hell, don't make him not a duck. Finessing is a blessing, bruise his mind and make him give it up. Hit a nigga ass from the blind and he don't know what's up. Know he not a soldier, but wanna shine, so he gon' throw it up. Why you ain't got no pistol, what's the issue? Don't you know it's up? Know it's off the rip, you must be milked like you don't know it's up. Sweet. Mouth closed when he know he covered. Crazy how these niggas turn the hole when they know they buck. Holy Conley hitting the block, it ain't gon' stop shit. Off shit, put him on the shirt, now he a topic. Heart is in his rap, now number one, then I'm your topic. I don't really drop shit, this shit don't feed my pocket. I'm my daddy's son, can't you tell I'm a rolling stone? Posted on the corner selling comb, I ain't coming home. I fuck with a tough, even though the mama did me wrong. Dick all in the gutter, she ain't made me put the condom on. Asking the nigga about me, boy, I had the trap jump. Bad bitch gon' ride me like a horse, she in my lap coming. All my niggas sold, you mother know we coming out dumb. Shots from the Glock in case you think about taking something from me. Ain't taking shit from me, nigga. You don't take shit with this motherfucking life. Nigga know what going on, man. Come home, my nigga. You know what going on, man. For real, my TNB shit. 200.
Ça bouge sur les ondes à Diolfi. Vous écoutez Radiola sur 106.6.